RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. 95 jours, on le disait, avant le début des Jeux Olympiques, et c'est l'occasion jusqu'à 11h de s'intéresser plutôt aux églises qui se mobilisent depuis plusieurs mois pour être au rendez-vous. C'est le cas des catholiques, c'est le cas des protestants aussi, comme vous allez l'entendre jusqu'à 11h. On va être très concret, vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que, dites-nous si vous pensez que les valeurs du sport sont aussi des valeurs évangéliques, et si vous-même vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous apporte le sport? Est-ce que vous avez prévu d'ailleurs des choses à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques? Est-ce que vous avez prévu de participer à des événements, notamment organisés par la Fédération Protestante de France ou par Holy Games aussi, qu'on va continuer de présenter jusqu'à 11h? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Toujours avec Jean-Fred Berger. Rebonjour Jean-Fred.
Bonjour.
Co-président de la commission Jeux Olympiques et Paralympiques de la Fédération Protestante de France. Nous a rejoint Janvier Ongla. Bonjour Janvier.
Bonjour, bonjour. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous?
Très bien.
C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes responsable de la communication d'Holy Games, le projet de l'Église catholique pour les JO et les Jeux paralympiques de Paris 2024. Avec nous aussi Lucille Delasserre. Bonjour Lucille. Vous êtes coordinatrice pour Holy Games et notamment pour un projet qui s'appelle Les Routes d'été, que vous allez nous présenter. Un mot de sport justement, Lucille Delasserre, est-ce que vous faites du sport?
Oui, je fais du sport, le badminton notamment, et le futsal, et beaucoup de randonnées également.
Voilà, futsal, badminton et des randonnées, ben voilà, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et vous Janvier?
Moi, c'est plutôt football, course aussi, pour entretenir un peu le cardio et du renforcement musculaire à la salle de sport.
Et vous, Jean-Fred, vous avez déjà répondu à cette question tout à l'heure. Alors, 95 jours avant le début, c'est le décompte officiel. Vous êtes dans quel état d'esprit, Janvier Ongla, vous, du côté d'Holy Games?
On est dans un état d'esprit plutôt positif, vraiment avec un bel élan, un beau dynamisme, surtout au niveau des équipes. Avec pas mal de personnes qui sont mobilisées autour du projet, de près et de loin. Et donc, on a hâte. On a hâte avec tous les événements, notamment qui arrivent. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais même avec la flamme qui va arriver, on est un peu bouillant. Et donc, on a vraiment hâte que ça arrive.
Voilà, vous êtes bouillant. Et vous, à la Fédération Protestante de France, Jean-Fred Berger?
Écoutez, c'est une belle aventure enthousiasmante, mais aussi c'est une longue aventure, puisque ça fait plusieurs mois maintenant, plus de 2 ans, que nous préparons ces Jeux Olympiques, à la fois pour recruter les aumôniers, donc on va en avoir 36 et on en parlera tout à l'heure certainement, qui seront dans le centre, qui se relayeront dans le centre multiconfessionnel pour les Jeux Olympiques, puis les Jeux Paralympiques, puis une multitude d'activités qui là ne sont pas directement organisés par la Fédération protestante, mais que les églises organisent au niveau local, les églises protestantes et évangéliques, un peu dans toute la France, à l'occasion de ces JO, pour témoigner de l'évangile autour du sport. Voilà.
Vous, Lucille, Lucille Delasserre, vous êtes coordinatrice au sein de l'IGEB, notamment pour un projet plutôt tourné vers les jeunes. Qu'est-ce que vous allez proposer, vous, à Holy Games?
Oui, nous organisons donc des routes d'été pour les jeunes 18-35 ans. L'idée est de se dire, à la suite des JMJ de Lisbonne, un an plus tard, nous accueillons cette année les Jeux. C'est vraiment un événement unique, et cette fois-ci, au lieu d'être accueillis par les Portugais ou par un autre pays, c'est à nous d'accueillir le monde entier. Et d'ailleurs, le pape l'a également rappelé, il nous a dans une note, il nous a indiqué Quelle joie d'accueillir le monde entier et aussi quelle responsabilité pour vous. Il nous a vraiment invités à ouvrir nos églises, à ouvrir nos cœurs. Et donc, c'est dans cet esprit, dans l'esprit des JMJ aussi, qu'on invite ces 18-35 ans à venir cet été à Paris.
Pourquoi, Janvier Onglas, c'est important de ne pas parler qu'aux adultes pour ces JO?
Parce que je pense qu'il y a quand même une tranche d'âge qui peut être aussi mobilisée, une tranche d'âge qui a pas mal de vitalité. On le voit au niveau de la jeunesse dans les paroisses, dans les églises, dans les différents mouvements, comme le disait Lucille. C'est vraiment je pense qu'il y a vraiment une jeunesse qui est enflammée et qui a besoin aussi de se sentir concerné et investi par cet événement planétaire et qui plus est, 100 ans plus tard, qu'on accueille en France.
Je sens quand même, à travers ce projet Les Routes d'été, on va prendre le temps bien sûr d'en parler, mais je sens que les JMJ l'année dernière, Lucille de la Serre, ont peut-être changé quelque chose dans la vision des rassemblements de jeunes.
Oui. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu les JMJ. Donc les jeunes qui sont partis n'étaient peut-être jamais allés aux JMJ avant. Et même pour ceux qui sont restés en France, il y a eu un tel élan qui a suivi après les JMJ. Le pape a invité les jeunes à être disciples missionnaires. Donc on est vraiment envoyés en mission. Donc voilà, il y a toujours cette joie aussi qu'on a reçue aux JMJ. Peut-être communiquer au monde entier à l'occasion des Jeux.
Vous, Jean-Fred Berger, pour la Fédération protestante de France, est-ce que vous organisez également des événements que pour les protestants ou alors, comme on l'entend un peu depuis le début de Je pense donc j'agis, plutôt des événements œcuméniques?
Oui, alors d'une part œcuménique, c'est certain, la dimension œcuménique est très importante pour nous, parce que c'est une façon de témoigner de l'unité qui règne entre les chrétiens, et c'est un message qui est le message de l'Église, hein, de l'Église de Jésus-Christ. Deuxièmement, je dirais, pas seulement vers les protestants et vers les paroissiens, vers les membres d'Église, mais au contraire, profiter de cette occasion unique pour s'ouvrir, aller vers l'extérieur, organiser des activités au plan local, autour d'un match de football, du témoignage d'un athlète chrétien, de réflexion sur le sport et la foi, sur le sens de la vie, etc., en accueillant pas seulement des jeunes paroissiens ou des membres assidus de chaque communauté. Il y a vraiment une ouverture à l'occasion de cette grande fête mondiale qui aura lieu en France.
Avec aussi un événement qui va se dérouler dans quelques jours, hein, le 8 mai, pour accueillir la flamme des Jeux de Paris. Comment ça va se passer à la Fédération? Qu'est-ce que vous allez proposer, Jean-Fred?
Écoutez, c'est pas la fédération toute seule. Hein.
Oui.
Vous connaissez cette affiche certainement qui a été diffusée, qui existe, hein, qui se trouve et qui annonce cet événement au stade Pierre de Coubertin à Paris, à Paris 16e, le 8 mai 2024, de 14h à 18h. Et on se retrouvera catholiques, protestants et orthodoxes. C'est organisé par la Conférence des évêques, par la Fédération protestante, les évêques orthodoxes, le diocèse de Paris, le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, etc., et Holy Games. Donc il y aura dans ce stade, qui s'appelle Fête, Sport et Unité, à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique sur le sol français, eh bien, il y aura un certain nombre d'activités, des tournois, des témoignages de sportifs, des jeux, des temps de louange, de la musique, des célébrations, une intercession, et puis des tas de stands variés à découvrir. Donc on met ça sur pied, et je dirais catholiques et protestants et orthodoxes ensemble.
Ça va être un très très bel événement, d'après vous, Janvier Onglas?
Oui, moi je suis convaincu que ça va être un très bel événement, avec un beau tournoi de foot, des témoignages, des jeux, des moments fraternels. Et je pense qu'on peut dire aussi que c'est assez inédit comme événement, puisque c'est la première fois, je dirais même possiblement dans l'histoire, même principalement dans les églises en France, que toutes les différentes communautés religieuses se rassemblent autour d'un événement sportif,
oui,
pour vivre un événement sportif. Donc on voit quand même que, que les Jeux olympiques, enfin l'arrivée principalement notamment de la flamme olympique, marque quand même un tournant dans notre histoire et dans l'histoire aussi de l'Église. Et ça nous permet aussi de, voilà, de nous rassembler et de vivre des temps festifs et fraternels.
Donc ce sera le mercredi 8 mai de 14h à 18h au stade Pierre de Coubertin dans le 16e arrondissement. Alors je sais que les Jeux Olympiques vont avoir lieu à Paris. Comment on fait quand on n'habite pas à Paris pour finalement vivre aussi l'événement à distance, Jean-Fred Berger ?
Alors d'abord, on a la chance d'être un pays connecté, hein, oui. Donc il y a à peu près la fibre ou la 4G partout dans sur le territoire français et même à l'étranger. Enfin même, je dirais, dans nos territoires d'outre-mer. Et il y a possibilité de suivre les différentes compétitions. Il y aura également certainement des témoignages de sportifs dans les églises. Il y aura des célébrations. Il y aura sans doute aussi des prières pour les Jeux Olympiques. À l'intérieur des communautés, lors des cultes du dimanche, lors des réunions de prière, etc. Donc je pense que c'est un grand élan qui va être partagé et vécu tout au long de ces Jeux olympiques et paralympiques. Et j'espère, je le souhaite vraiment vivement, que la partie paralympique ne soit pas le parent pauvre de ces Jeux olympiques. Parce qu'il y a une mobilisation, une forte excitation pour les Jeux olympiques. Et il faut vraiment que, par respect pour la dignité de nos athlètes qui ont toutes sortes d'handicaps avec lesquels ils doivent courir et concourir, eh bien, il y ait la même mobilisation qui se maintienne jusque début septembre.
Lucille Delasserre, je reviens sur les routes d'été que Holy Games organise cet été durant une semaine pour inviter tous les jeunes de 18 à 35 ans de vivre une aventure à l'occasion des JO avec un objectif, et j'aimerais que vous nous en parliez, c'est de vraiment faire découvrir le patrimoine le patrimoine religieux notamment à tous les jeunes en essayant d'allier sport, culture et foi. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire tout ça ?
Oui, on a prévu dans notre programme pour les jeunes qui vont participer à ces routes plusieurs activités avec notamment la matinée qui sera plutôt spirituelle, des temps de formation, des temps d'échange, la messe, pour que les jeunes soient nourris et ensuite l'après-midi être plus missionnaires, c'est-à-dire que ils seront envoyés dans des paroisses Holy Games qui seront ouvertes cet été. Et ces jeunes vont pouvoir tenir des stands sur les parvis, accueillir les touristes, les passants, faire visiter les églises, montrer le patrimoine, la chance qu'on a à Paris, en Ile-de-France, d'avoir un beau patrimoine religieux et culturel. Voilà, vraiment, avec ce sens de l'accueil des personnes. Et également le sport, puisqu'on organise un tournoi sportif entre les différents groupes des jeunes qui vont venir cet été, pour aussi ils puissent vivre le sport durant cette semaine, et puis regarder les épreuves ensemble, aller voir des épreuves pour celles qui seront accessibles aussi ensemble, donc vraiment vivre dans l'esprit de ces jeux pendant ces deux sessions que nous organisons. La première étant du 25 juillet au 2 août, oui. Et la deuxième du 3 au 11 août.
Jean-Fred Berger, à la Fédération protestante de France, quel est votre message, vous, pour tous les jeunes protestants qui nous écoutent peut-être ce matin à l'occasion des Jeux Olympiques ?
Bah écoutez, d'abord qui continue à pratiquer le sport et d'y voir une occasion de rencontre avec d'autres jeunes qui peuvent ne pas être chrétiens ou protestants. Deuxièmement, qu'ils se passionnent pour cette aventure, que ceux qui le peuvent soient volontaires. Je sais qu'on manque encore de bénévoles pour accompagner en région parisienne notamment l'organisation et le fonctionnement de ces Jeux olympiques. Donc que ceux qui le peuvent se portent volontaires. tant qu'il est temps pour participer de près à cette aventure. Et puis enfin qu'il communie à cet élan national et mondial autour de la jeunesse, du sport, de l'effort, de la victoire, et puis aussi de la fraternité entre tous les hommes. Les sportifs sont généralement très très jeunes, et donc il y a un message de jeunesse, d'élan, d'espoir, de vie, qu'ils le partagent et qu'ils le soutiennent aussi dans la prière.
Allez, 10h15 dans Je pense donc j'agis. On va continuer de parler de ces Jeux Olympiques de Paris. On essaie de voir aussi comment les églises se mobilisent pour être au rendez-vous avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. Est-ce que vous trouvez ça normal d'ailleurs, hein, oui, que les églises se mobilisent pour les JO? Est-ce que vous pensez que les valeurs du sport soient aussi des valeurs évangéliques? Venez témoigner au 04 72 38 20 23.
Tous les brasiers possibles qui réinventent l'âme, je n'en ai pas fini de leur courir après. De plaines en refuge et de voiles en rames, j'avance au bord du gouffre et je trace discret. Le passé ne passe pas et ça me va très bien. L'avenir me poursuit en désir par millions. Je navigue effondré entre hier et demain, en hurlant dans le vent mes doutes à l'unisson. À force de me chercher dans les branches, de me chercher dans les blés, de me chercher sur tes hanches, je vais me trouver. À force de me chercher sur les planches, de me chercher au ciné, dans l'ombre et la revanche, je vais me trouver. Tous les brasiers possibles qui réinventent l'âme, je n'en ai pas fini de leur sauter dedans. Mes sanglots se font rire, mes feintes font leur gamme. Face à la vallée, est-ce que tu me comprends? J'ai longé tant de murs, esquivé mon reflet, affronté le silence et perdu le contact. Je ne crois qu'à l'aventure de bas-fonds en sommet. Le vertige est pour moi la seule science exacte. À force de me chercher dans les branches, de me chercher dans les blés, de me chercher sur tes hanches, je vais me trouver. À force de me chercher sur les planches, de me chercher au ciné, dans l'ombre et la revanche, je vais me trouver. Pas la force du vide, la force de l'ennui, quand y'a que l'étoile qui guide, que la lune qui conduit. Par la force des poèmes et d'un amour suprême, la force des nuits noires, d'une larme sur un boulevard. La force des nuits blanches, la force de tes hanches, des nappes arrachées, d'une photo retrouvée. Par la force du rêve, tu vois, je me relève.
Voilà, chanson d'espoir signée Noé Préchoff sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et on salue les auditeurs de Radio Notre-Dame en Île-de-France et à Paris qui nous écoutent. Vous êtes directement concernés d'ailleurs par les Jeux Olympiques parce que ça va se passer dans votre ville. Dites-nous, en tant que chrétien, voilà, cet événement, est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous allez participer d'une manière ou d'une autre? Appelez-nous au 04 72 38 20 23 pour témoigner. Trois invités jusqu'à 11h. Jean-Fred Berger, je rappelle que vous êtes coprésident de la commission Jeux Olympiques et paralympique de la Fédération protestante de France. Lucille de la Serre, vous êtes coordinatrice d'un programme pour Holy Games, et Janvier Ongla, vous êtes responsable communication d'Holy Games, ce projet de l'Église catholique pour les JO et paralympiques. Janvier, justement, au niveau de la communication d'Holy Games, ça fait déjà quelques années qu'on a l'habitude de travailler ensemble à RCF. Préparer comme ça, alors préparer les Jeux Olympiques, vous n'êtes pas vraiment dans les coulisses, mais on imagine que c'est énormément de travail, de coordination.
Oui, il y a pas mal de coordination, pas mal de travail, que ça soit avec d'autres instances. Donc il y a un travail de partenariat, il y a des relations institutionnelles. Voilà, donc c'est pas mal d'échanges, c'est pas mal de rendez-vous aussi, pas mal de découvertes. Mmh. Et donc voilà, on est un peu dans un projet, je dirais un peu, Holy Games, c'est un peu le projet start-up, un des projets start-up de l'Église. Parce que avant Holy Games, il n'y avait pas forcément un programme de mobilisation qui était aussi déployé, aussi officiel, aussi national surtout. Donc ça mobilise aussi la Conférence des évêques de France, le diocèse de Paris et tous les réseaux internes à l'Église. Donc oui, ça demande quand même beaucoup de travail.
Comment ça s'est passé, Jean-Fred Berger, avec le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, alors le COJOP du coup, mais voilà, vous avez eu des liens pour l'organisation de certains événements, et notamment pour les villages.
Voilà, alors ça c'est tout un aspect pratique qui est très important, puisque le village olympique, il y aura 15 000 athlètes dedans, et je crois qu'il y aura à peu près 40 000 repas servis par jour à l'intérieur du village olympique. Donc vous voyez l'ampleur, c'est une véritable fourmilière. Il y aura dedans donc un centre multiconfessionnel avec 7 cultes représentés, les 3 cultes chrétiens que le COJOP appelle religion chrétienne, et puis la religion hindouiste, bouddhiste, musulmane et israélite, dans le même lieu, dans un même site. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est comment s'organiser ? Eh bien, ça s'est organisé mois après mois, en relation avec le COJOP, le comité olympique des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, au début, les rencontres ont été un peu surprenantes, puisque nous, qui sommes habitués à des aumôneries, nous trouvions face à des interlocuteurs qui étaient très tournés sur l'organisation fonctionnelle, l'alimentation, etc., mais assez peu sur la dimension spirituelle et le travail d'aumônerie. Et donc, une forte attention de la part du COJOP au respect de la laïcité et du non-prosélytisme, pratique que nous avons dans nos églises et dans nos aumôneries, en respectant évidemment très très précisément le non-prosélytisme et le respect de chaque personne. Et donc il y a eu mois après mois des rencontres, des réunions, d'ailleurs avec beaucoup d'humour, catholiques, protestants et orthodoxes, on se retrouvait avant ces réunions, on préparait un peu nos objectifs, en tout cas les points qu'on voulait aborder, et ensuite les uns et les autres, sans se répartir les temps de parole ou qui intervenait sur tel sujet, on était de manière très complémentaire face au COJOP pour dire écoutez, il y a telle dimension qui ne nous semble pas encore prise en compte, etc. Et on a avancé les uns et les autres de manière remarquable. Je dirais aussi avec les autres religions. On a été très agréablement surpris et de voir un état d'esprit très fraternel, dépassant uniquement le cadre chrétien. Il faut signaler, par exemple, qu'au début, les espaces répartis à la religion chrétienne, entre guillemets, étaient très très réduits. On ne nous donnait que 50 mètres carrés. Et il y avait la même taille pour chacune des autres religions. Donc vous imaginez des dizaines de d'aumôniers catholiques, protestants, orthodoxes dans 50 mètres carrés, mais c'est très très faible, c'est un grand salon, quoi. Et les bouddhistes et les hindouistes nous ont donné chacun la moitié de leur superficie, ce qui fait que nous aurons 100 mètres carrés, et ce qui est déjà plus acceptable. Ah oui. Mais une préparation avec le COJOP, mois après mois, dans des relations amicales, parfois un petit peu je dirais, un petit peu frontal, parce qu'il a fallu s'expliquer sur certaines choses, mais c'est normal, pour il n'y a pas de préparation sans, à un moment donné, qu'il y ait des incompréhensions et qu'il a fallu lever d'un côté ou de l'autre.
Et vous, Janvier Ongla, du côté d'Holly Games, comment se sont passées justement les discussions avec le COJOP?
C'était de bonnes discussions, ouais. Notamment avec nos différents responsables du comité, de différents membres du comité de pilotage. Et donc je pense qu'on a vraiment avancé de fil en aiguille, surtout au niveau de l'Église catholique, voilà, pour savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser de notre côté pour qu'on ne puisse pas, entre guillemets, interférer sur les domaines qui sont propres aux Jeux Olympiques, mais que voilà, on puisse travailler main dans la main et qu'on puisse voilà s'entendre sur les points dans lesquels on doit notamment s'entendre, principalement notamment sur le village olympique, avec la présence de nos 40 aumôniers.
Lucille de la Serre, je me tourne vers vous pour parler plutôt des jeunes, hein, les jeunes qui seront aussi concernés par ces Jeux Olympiques. Un objectif des routes d'été, c'est de notamment de partager la joie. Alors ça me parle beaucoup, parce que sur RCF on a un slogan qui s'appelle la joie se partage, tout simplement. Donc là, pour le coup, on est vraiment connecté. Mais voilà, est-ce que le sport peut vraiment permettre de partager la joie, alors que parfois il y a des défaites dans le sport?
Oui, moi je suis convaincue vraiment que le sport est une occasion de vivre des moments de joie, mais des exemples tout simples. Par exemple, j'ai rejoint un groupe de futsal, je ne connaissais personne dans le groupe, et en fait, par le sport, on crée des amitiés, on rigole, même s'il y a des défaites, bien sûr, ça peut souder l'équipe. Et là, ça permet de rencontrer des personnes très différentes. C'est vraiment l'occasion de aussi progresser, d'apprendre le dépassement de soi, et ça crée aussi beaucoup de joie. Et là, on attend 2000 jeunes cet été. Ils vont pouvoir se rencontrer par le sport et par toutes leurs autres activités. Et c'est vraiment aussi, selon tel ou tel sport, on peut être très bon ou très mauvais. Et c'est aussi de créer cette communion entre les différents jeunes, de s'entraider, de voilà, très simplement jouer ensemble, en fait.
Une communion, j'aime bien ce terme, je trouve, Jean-Fred Berger, et ça se ressent un peu d'ailleurs dans tout ce qu'on s'est dit depuis le début de Je pense donc j'agis, que finalement ces Jeux Olympiques, alors si on enlève un peu les polémiques qu'il y a autour, et c'est normal qu'il y en ait, parce que parfois ça plaît pas à tout le monde, mais il y a une vraie communion, on le sent à chaque fois d'ailleurs.
Oui, il y a une communion, et incontestablement, parce que c'est une épreuve où chaque être humain se trouve confronté à ses limites. Chaque athlète est sous la pression de sa famille, ses propres pressions, parce que c'est les objectifs qu'il s'est donnés, la pression de son équipe sportive, de sa fédération, de son pays, de son gouvernement, etc. Et puis il y a les supporters, il y a tous ceux qui viendront monde entier, qui viendront, il y aura des millions de touristes ou de visiteurs qui seront en région parisienne, plus je l'espère, de nombreux Parisiens et Français, de Parisiens qui resteront malgré les tracas et les embarras de Paris avec la circulation pendant ces épreuves, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup d'embouteillages certainement. Et puis je dirais, cette ferveur de cette jeunesse, de ce cadre extraordinaire qu'est Paris, hein, tout autour de la Seine, jusqu'au village olympique, et puis sur les différents lieux, puisqu'il y a plusieurs villages olympiques, en fait il y a plusieurs sites en France qui sont retenus pour ces épreuves, et donc cette ferveur, cette communion, elle va être vécue, et pas seulement dans les églises, elle va être vécue dans la rue, autour des stades, sur les terrains de sport, voilà.
Et on va continuer d'en parler dans un instant, le temps de marquer une petite pause. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Venez nous parler si vous êtes chrétien, du rapport que vous avez avec le sport, qu'est-ce que ça vous apporte également dans votre vie? Comment vous allez vous mobiliser, vous, pour les Jeux Olympiques? Peut-être que vous faites partie d'Holy Games, peut-être que vous faites partie de la Fédération Protestante de France. Bah, venez témoigner, nous dire un peu ce que vous avez prévu. 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Il est 10h30 dans Je pense donc j'agis. On parle de sport et de foi ce matin avec vos appels au 04 72 38 20 23. Profitez de cette chanson pour venir témoigner à l'antenne.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Si tu voyais comme c'est beau.
J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau.
Joseph Kamel et Julien Doré pour vous accompagner en ce lundi matin. Beau.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Jean-Fred Berger, vous êtes coprésident de la commission Jeux Olympiques et Paralympiques de la Fédération Protestante de France. Janvier Onglat, vous êtes responsable communication de Holy Games, le projet de l'Église catholique pour les JO et Paralympiques. Et puis Lucille Delasserre, vous êtes coordinatrice au sein de Holy Games et vous nous parlez ce matin notamment de vos propositions pour les jeunes, pour ces Jeux Olympiques et notamment les routes d'été qui vont avoir lieu cet été. Alors, il y a deux routes, la première du 25 juillet au 2 août, et puis la deuxième du 3 août au 11 août. L'idée, c'est vraiment de rassembler donc les jeunes, on l'a dit, de 18 à 35 ans. Pourquoi route pourquoi ce choix, Lucille Delasserre? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'aller faire une forme de pèlerinage?
Oui, c'est route, c'est un pèlerinage. Alors, On a déjà plusieurs diocèses, mouvements ou groupes qui se sont inscrits pour nos routes, qui viennent d'ailleurs d'autres départements de France et même de l'international. On a un groupe d'Américains qui s'est inscrit. Donc voilà, l'idée, il y a vraiment un cheminement pour venir en Île-de-France à Paris. Et ensuite, pendant la semaine, il y aura différents parcours à la fois spirituels. Donc il y a vraiment cette idée de chemin intérieur pour que les jeunes grandissent aussi dans leur foi. Et ensuite, à travers les personnes rencontrées, l'animation des églises à Paris en Île-de-France, il y a aussi cette volonté de se mettre en marche, donc de participer à une route pour annoncer l'évangile et pour témoigner de notre joie.
Voilà, partager la joie, se mettre en route, vous l'avez dit, et puis aussi accompagner les sportifs chrétiens. Alors ça, je trouve ça aussi intéressant. Ça veut dire que vous êtes en contact avec eux?
Oui, nous sommes en contact avec certains sportifs chrétiens, athlètes ou non d'ailleurs, et on a demandé à certains de venir témoigner aussi pour nos jeunes, de venir donc dire en quoi le sport, la compétition et la foi ont des vertus communes et comment croire en Dieu voilà, les aide aussi dans leur quotidien à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Jean-Fred Berger, je trouve que ça rejoint vraiment ce qu'on a entendu dans les témoignages de la première partie, c'est-à-dire le sport qui permet aussi de mieux se connaître, de se dépasser également. Est-ce que c'est ce que vous pouvez dire ce matin? Est-ce que vous pourriez inviter les jeunes à tenter de vivre cette expérience?
Alors effectivement, je rejoins ce point. Le sport, enfin pour les sportifs, il y a à la fois la passion de faire du sport, mais il y a aussi une aptitude. Et l'aptitude, elle se développe. Il suffit pas d'avoir envie d'eux, il faut aussi développer ses capacités sportives. Et c'est pour ça que les sportifs, ils s'entraînent jour après jour. Ils ont une vocation, une passion, mais ils ont aussi une activité. Et donc ça rejoint comme je pense que c'est important, ça rejoint la pratique de la foi dans notre vie quotidienne. Il faut aussi beaucoup de lucidité sur soi, et je pense que pour les jeunes c'est un bon exemple, l'exemple du sport, parce que il faut connaître ses qualités, connaître ses défauts, travailler dessus, ne pas désespérer et se dire je vais progresser. Et c'est cette notion d'espérance qui a toujours animé l'humanité, l'être humain depuis la création du monde est animé par la volonté de progresser, de progresser, donc la notion de progrès individuel et collectif, et donc la lucidité, le travail sur soi, l'entraînement, et puis aussi la vie en équipe, parce que personne ne s'entraîne tout seul. Il faut absolument un coach, une équipe, une fédération, etc. Et donc tout ça, ça rejoint des images aussi de l'Église. Et saint Paul, l'apôtre Paul qui vient à Corinthe et qui a certainement vu les Jeux Olympiques de Corinthe, s'en inspire lui-même dans ses écrits, notamment dans l'Épître aux Corinthiens. Il y a de nombreuses références à ces Jeux Olympiques et à ce qu'il y a vu. Voilà, et donc... ça doit inspirer aussi les jeunes d'aujourd'hui sur les coureurs de fond, les rugbymen, ils s'entraînent, ils se préparent, et eux, dans leur vie de jeunes, ils doivent se préparer à leur vie future.
Jean-Vier Onglas, c'est vrai qu'on parle beaucoup des Jeux Olympiques depuis le début de cette émission, moins des Jeux Paralympiques, et pourtant ils ont toute leur importance. Et à Holy Games, vous préparez également quelque chose qui s'appelle la route extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous présenter ça?
Oui, alors la route extraordinaire, c'est vraiment un événement qu'on a vraiment voulu au sein de l'Église de manière générale, parce que je pense quand même qu'on a une force qui nous est propre, dans laquelle on sait déployer pas mal de ressources. Donc ça va être la première fois qu'on va mobiliser tous les différents mouvements liés aux solidaires et liés aux personnes en situation de handicap. qui vont animer, voilà, chaque jour, et donc il y aura 12 jours, 12 associations, 12 sports dans 12 lieux différents. Et donc l'objectif, c'est vraiment de vivre avec les personnes en situation d'handicap et elles-mêmes qui pourront participer à tous les événements, voilà, s'il y a la possibilité d'aller voir des épreuves ou voilà, de faire des événements en commun. Et donc l'objectif premier, ça va être vraiment de ne pas délaisser cette partie qui est tout de même au cœur des JO.
Ouais. Ne pas délaisser, ça veut dire qu'il peut y avoir cette tentation de mettre ça un peu de côté.
Bah, nous, ce qu'on se dit souvent, c'est que la flamme ne s'éteint pas. Oui. On doit toujours la faire vivre et chaque jour est un exploit. Parce que on peut voir aujourd'hui que les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, normalement la flamme s'éteint. Et donc l'objectif pour nous, c'est de dire qu'elle ne s'éteint pas, on la maintient en vie, elle est toujours vivante, elle est toujours présente, et que pour nous, dans le respect de la dignité de chaque personne, il n'y a pas de différence entre une personne valide et une personne qui est en situation de handicap. Chaque personne a sa dignité, et donc l'objectif de l'Église, c'est de mettre les deux personnes voilà, au même plan d'égalité.
Jean-Fred Berger, ça vous en êtes sensible, peut-être vous personnellement, et puis aussi au sein de la Fédération protestante de France.
Oui, alors c'était le message dès le début, lorsqu'on a créé cette aventure du côté protestant, c'est d'être porteur de valeurs d'espérance. Ça, c'est comme porteur de la flamme, et donc on avait imaginé que la flamme transportait en son sein toutes les valeurs de l'Évangile, que le monde ne reconnaît pas toujours, mais qui en fait sont intrinsèques à ces valeurs du sport. Hein. Voilà, donc on y est très sensible, on y est très attentif. Hein. Le sport, c'est une transmission d'un savoir, d'une pratique, de génération en génération. C'est aussi des échanges entre, de manière horizontale, latérale, entre différents pays, entre différentes rencontres à chaque fois, au plan national en France. On voit très bien que les équipes qui se rencontrent, qui s'affrontent dans des compétitions, eh bien chacun observe la pratique de l'autre et se dit tiens tel équipement est plus avantageux, telle façon de respirer, de nager, etc. Je trouve que c'est très très encourageant. Tout ceci c'est la notion de progrès humain, mais aussi de respect de l'autre. Pour revenir à la question sur les Jeux paralympiques. Du côté protestant, on a de nombreuses associations ou même fondations, la fondation John Bost, qui des dizaines de je dirais d'établissements accueillant des handicapés et prenant soin d'eux tout au long de leur vie. Et donc cela, ils nous ont fourni plusieurs de nos aumôniers viennent justement de des aumôniers pour les Jeux paralympiques viendront de ces établissements. Ils accompagnent déjà en temps normal, si on peut dire, des handicapés. Et là, ils accompagneront, ils seront là à disposition pour les athlètes qui participeront à ces Jeux paralympiques. Voilà. Et donc, je pense que c'est la notion de dignité, de respect. Et quel que soit le niveau de l'un ou de l'autre, chacun a sa dignité.
Alors ça nous permet de prendre un petit peu de recul hein, sur le sujet plus général du sport et de la foi. On a reçu un mail de Catel au 04 72 30 à l'adresse direct@rcf.fr et elle nous dit les limites physiologiques des athlètes, le corps étant le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas une forme d'idolâtrie que de vouloir les dépasser avec parfois la mort à l'arrivée. Alors ça c'est peut-être un peu exagéré, mais je trouve ça intéressant, Jean-Fred Berger, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah écoutez, tout à l'heure j'évoquais le fait que le centre multiconfessionnel sera directement voisin du centre antidopage, et y a vraiment quelque chose d'excessif dans la façon dont certains pays dans l'histoire récente, hein, et je pense en particulier dans le monde communiste, dopaient les athlètes avec des produits qui détruisaient leur santé. On a vu aussi des coureurs de des cyclistes mourir d'un arrêt arrêt cardiaque à 35 ans, etc., parce qu'ils avaient certainement abusé de substances qui leur permettaient d'atteindre des niveaux exceptionnels sur le plan sportif. Et donc, le but du sport, c'est certainement de gagner, mais ça ne doit pas être au coût de sa propre vie, de sa propre santé, etc. Il doit y avoir un équilibre. Et c'est pour ça que la seule dopamine pour nous qui doit être mise en œuvre, c'est la dopamine de l'amour, la dopamine de l'amour de Dieu et de l'amour du corps qui nous a été donné par notre naissance et ne pas nuire à sa santé en utilisant des substances illicites et dangereuses.
Évidemment, Lucile de la Serre, pour les routes d'été, donc qui sont plutôt adressées aux jeunes, ils vont devoir aussi pratiquer du sport dans ces routes d'été. C'est important, ça, de ne pas mettre ça de côté.
Oui, on les invite à participer à un tournoi sportif dans lequel plusieurs sports seront joués, comme le basket, le foot, et puis des sports plus doux comme la pétanque, par exemple. Et on trouve ça vraiment important que les jeunes puissent avoir cette activité sportive. Ils seront à Paris, au milieu de l'effervescence des Jeux. Comme on prône ces vertus du sport, c'est important qu'ils les vivent aussi tous ensemble.
Janvier Onglat, ça arrive très très vite, hein, 95 jours, j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes aussi, vous l'avez dit, vous êtes chaud, hein, si je peux utiliser cette expression. Dans le sport, je pense qu'on peut se permettre. Comment on arrive à motiver les troupes? Parce que parfois le sport n'intéresse pas tout le monde. Comment on arrive quand même à avoir cet élan fraternel que vous proposez, vous, à Holy Games?
Alors même si le sport n'intéresse pas forcément tout le monde dans la pratique, mais on peut voir quand même que juste en tant que supporter, on voit tout de même qu'il y a tout de même autant d'effervescence lorsqu'on prend par exemple des matchs de rugby que nous-mêmes on a pu diffuser, que ce soit au Beau Conseil ou à d'autres endroits. On voit des personnes qui ne sont pas forcément des praticiens, de grands praticiens, mais qui sont tout de même de bons supporters et de bons fans. Donc je pense qu'on arrive tout de même à créer cette émulation au travers de cet événement qu'on accueille. C'est vraiment de se dire on accueille les JO pour la deuxième fois, et donc la première fois c'était il y a quand même 100 ans, c'est un événement unique qu'on ne revivra pas forcément dans notre vie. Et c'est de se dire voilà, le monde entier aura les yeux fixés sur la France, sur Paris et sur l'Île-de-France, la France entière de manière générale. Quel regard on veut donner au monde sur la France. Donc, je me dis quand même que il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées, qui souhaitent participer à cet événement en faisant du sport ou en ne faisant pas de sport, mais en tout cas, elles participeront de près ou de loin à Holy Games.
En tout cas, voilà, énormément de fraternité dans ces beaux projets. Un mail de Michel qui nous dit « J'aime beaucoup le sport, mais en amateur, mais les JO en particulier sont, pardonnez-moi l'expression, bouffés par le fric des sponsors. Au moment où j'écris, vous parliez du dopage, c'était il y a quelques instants, et c'est aussi un des dangers du sport rémunéré. J'habite Paris, mais pour les Jeux Olympiques, je ne serai pas à Paris. » Bon, au moins, c'est clair. Merci Michel pour votre témoignage. Jean-Fred Berger, c'est pas la première fois, on en a eu aussi dans la première partie de Je pense donc j'agis. Est-ce qu'il est toujours temps, d'après vous, de convaincre ce Michel qui nous a envoyé ce mail de participer d'une manière ou d'une autre au JO?
Bah écoutez, oui, moi je pense qu'il est toujours temps. C'est vraiment dommage de passer à côté de ces événements mondiaux et qui ont lieu de manière centenaire, enfin une fois tous les siècles, hein, 1924-2024 à Paris, les Jeux Olympiques de Paris. Donc je trouve que c'est utile et même indispensable à mon avis de s'y intéresser. Ensuite, tout le monde n'est pas obligé d'être présent dans Paris. Je comprends la crainte des embarras de Paris, des embouteillages, de la circulation, du bruit. etc. Cela se comprend parfaitement. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une aventure humaine qui est à une autre échelle. Je dirais, le commandement de Jésus, aller, faites de toutes les nations des disciples, aller dans le monde, etc. Cette fois-ci, c'est le monde entier qui vient à nous. C'est le monde entier qui vient à la France. C'est le monde entier qui vient à Paris. Et c'est une occasion unique aussi pour les chrétiens de se mobiliser et au travers de l'accueil, de l'annonce de la parole de Dieu, de ce qui va être vécu dans les communautés, en lien avec des athlètes, des témoignages, etc., et ben de vivre cette espérance de la foi chrétienne dans notre pays, et cette fois-ci ben de contribuer à ce message de l'Évangile dans le monde entier. Mmh.
Qu'est-ce que votre expérience de président de la commission de l'aumônerie aux armées a changé, vous, dans votre vie? Qu'est-ce que ça fait par rapport à votre motivation en termes de sport?
Alors, moi je suis un général en retraite. Hein. Oui. Il y a eu le général Georges Lain qui a contribué à reconstruire Notre-Dame de Paris. Et je me réjouis, c'était un homme formidable que j'ai beaucoup respecté. Et on regrette son décès brutal en montagne.
Le 18 août 2023.
Voilà. Mais c'est très symbolique. Et donc, moi on est venu me chercher. Je suis général et je suis président des aumôniers, de la commission des aumôniers militaires protestants. Ben moi, par exemple, ce que ça a changé dans notre façon de regarder les athlètes, c'est que on ne peut pas, dans les prières, lorsque il y aura une relation personnelle entre un aumônier dans le village olympique et un athlète, lui promettre la victoire. Je pense que ce serait grave que un aumônier dise « oui, je vais prier pour toi, tu vas voir, tu vas gagner ». En aucun cas. De même qu'un aumônier militaire ne pourra jamais dire à un soldat « tu ne risques pas ta vie, tu vas vivre ». Personne ne peut le dire. On ne sait pas. La victoire, c'est la victoire individuelle, la victoire. Mais il y a aussi il y a une compétition, etc. Et on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est aussi le plan de Dieu. Donc il y a une grande humilité à avoir que l'athlète doit avoir, mais aussi l'aumônier ou le chrétien par rapport à tout ce qui concerne le déroulement de nos vies. Moi, mon regard de président des aumôniers militaires protestants, c'est que on doit être très humble aussi dans cette façon d'accompagner et plutôt tourner vers l'écoute, l'écoute bienveillante de chaque athlète, de sa demande, que ce soit avant son épreuve, au lendemain de son épreuve, qu'il ait réussi ou qu'il ait échoué. Il est vraisemblable que s'il a réussi, il sera plus tenté d'oublier sa demande, et s'il a échoué, il aura peut-être tendance à revenir vers un aumônier pour dire voilà, je suis désespéré, etc. Et à ce moment-là, il faudra le consoler, avoir des paroles de consolation. Mais on sait très bien que bien peu sont les vainqueurs. Hein. Les 15 000 athlètes, quand on voit le nombre de médailles, ça ne concerne pas 15 000 athlètes. Hein. Ça en concerne quelques centaines. Donc, il y aura des déçus. Et donc, le rôle des aumôniers, c'est de ne pas claironner une parole triomphante que être chrétien vous apporte automatiquement la victoire. De même que financièrement, les Jeux Olympiques ont une nécessité d'une mobilisation financière, mais ce n'est pas du tout le but que les athlètes deviennent des milliardaires.
36 aumôniers, c'est ça, dans le village olympique?
Oui, pour les protestants, pour les protestants. On en a 36. Oui. Les catholiques en auront 40, on en a 36. Alors, on les a recrutés. Alors, ça a été très drôle parce qu'on a fait tout un processus de sélection. Hein, avec des critères, un casting. Et on a eu beaucoup plus de candidats que de places offertes. Et très longtemps après la clôture des candidatures, on a encore des pasteurs, des aumôniers qui disent « Ah, mais moi, j'ai des tas de qualités, etc. » Et donc, ça continue à postuler. On leur dit « Mais non, c'est trop tard, c'est fini. » Ça y est, ils sont déjà, et ça fait près d'un an qu'on les forme. Et donc, c'est 36 aumôniers, la plupart pasteurs et déjà aumôniers des hôpitaux, des prisons, ayant une forte expérience, parlant également anglais pour la plupart, avec une dimension internationale. On a un aumônier japonais, on a des Sud-Africains, brésiliens, etc. Donc, pour avoir couvrir un peu toutes les langues et pour pouvoir être en mesure, et aussi des femmes. On a un tiers d'aumôniers salariés femmes, parce que ce que nous a été recommandé par le président de la Fédération protestante, c'est d'être à l'écoute aussi des femmes et d'aider à lutter contre toute forme de harcèlement sexuel dans le sport. Et donc, au niveau des aumôniers, eh bien, il y a une sensibilisation et même une formation sur ce sujet.
Et ben voilà, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Jean-Fred Berger d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes coprésident de la commission Jeux Olympiques et Paralympiques de la Fédération Protestante de France, dont on peut retrouver plus d'informations sur le site internet protestantaupluriel.org. Merci Jean-Fred. Merci également à vous Jean-Vier Onglat et Lucille Delasserre pour votre participation. Et on rappelle que vous pouvez participer aux routes d'été si vous êtes jeune, voilà, en vous rendant sur le site internet holygames.fr. On mettra le lien sur notre site rcf.fr. Mais tout de suite, c'est presque fini puisqu'on va retrouver notre chroniqueur pour parler de la petite enfance. Et dans cette chronique, avec le soutien de la Fondation Saint-Irénée, nous recevons ce matin Thomas Villemontet. Bonjour Thomas.
Bonjour Melchior.
Vous êtes maître de conférence en psychologie, membre fondateur de l'association Mille et un mots. Et ce matin, pour parler de la petite enfance, vous avez un conseil pratique pour ceux qui élèvent ou côtoient de jeunes enfants.
Oui Melchior, tout à fait. C'est un conseil pratique qui est issu des programmes internationaux de soutien à la parentalité et qui fonctionne en fait même avec les plus grands. Et utiliser abondamment ce conseil peut permettre à la fois de faire grandir l'autonomie de l'enfant, mais aussi de réduire la fréquence des comportements d'opposition.
Alors quel est ce conseil ?
Eh bien ce conseil pratique part du constat que l'on pose souvent à nos jeunes enfants des questions qui semblent leur laisser un choix, alors qu'on est en réalité disposé à n'accepter qu'une seule réponse prédéterminée. On parlera pour désigner ces questions de questions qui n'ont pas de sens. Une question qui n'a pas de sens, c'est une question qu'on pose à l'enfant alors qu'on a déjà choisi la réponse. C'est une question où son opinion ne compte en réalité pas vraiment.
Et comme quand on demande à un enfant « Es-tu prêt pour le dîner ?» par exemple ?
Oui exactement, lorsqu'on lui demande « Veux-tu bien aller te coucher ?» ou encore « On y va ?» Ou veux-tu bien débarrasser ton assiette pour les plus grands ? Ces questions donnent à l'enfant l'impression qu'il peut décider, alors qu'en réalité nous avons déjà décidé à sa place. De ce fait, la question va souvent déboucher sur une situation d'opposition, car l'enfant va bien sûr souvent choisir l'inverse de ce que l'adulte voudrait. Nous gaspillons notre énergie, et il apprend petit à petit à de moins en moins nous écouter.
Alors faut-il, Thomas, éliminer les questions qui n'ont pas de sens en les remplaçant par des ordres ?
C'est une possibilité, mais la limite de cette solution, c'est qu'elle ne donne pas beaucoup de place à l'autonomie de l'enfant. On ne lui apprend pas à prendre des décisions, ça limite son sentiment de contrôle sur sa vie quotidienne. C'est pour cela que plutôt que remplacer les questions qui n'ont pas de sens par des ordres ou des injonctions, les programmes internationaux suggèrent qu'il est plus utile de les remplacer par des questions qui ont du sens.
Et comment fait-on pour réaliser cette transformation ?
Alors pour remplacer une question qui n'a pas de sens par une question qui a du sens, il suffit d'ajouter à la question un petit choix correspondant au degré d'autonomie de l'enfant, qui va lui donner du contrôle sur la situation et qui est un choix acceptable pour nous. Par exemple, veux-tu aller au pot avec une comptine ou avec un livre ? Veux-tu aller au lit avec ton doudou ou avec cette peluche ? Veux-tu que nous dînions maintenant ou dans 5 minutes ? Ou encore, veux-tu partir pour l'école en mettant ton manteau bleu aujourd'hui ou ta veste rouge ? Avec un peu d'entraînement, on peut inventer des questions qui ont du sens dans absolument toutes les situations du quotidien de la vie de l'enfant.
Alors c'est bien beau tout ça, hein, Thomas, mais quels en seront les bénéfices ?
Ils seront nombreux. Plus vous utiliserez les questions qui ont du sens, plus votre enfant se sentira maître des situations quotidiennes. Il apprend à faire des choix, à les assumer, à accorder de l'importance à ce que vous lui dites, qu'à vous lui donner une vraie maîtrise dans sa vie, dans le périmètre de vos règles d'adulte, bien sûr. C'est à vous de décider en tant qu'adulte de ce qui doit être, mais vous lui donnez la possibilité de choisir comment les choses se passeront. Il vous en sera reconnaissant et vous écoutera plus souvent. Alors pour les parents, grands-parents ou éducateurs qui nous écoutent, si vous côtoyez cette semaine des enfants, vous pouvez vous donner pour mission d'inventer pour eux des choix dans les situations du quotidien et d'observer leurs réactions. Ces petits choix n'auront peut-être pas beaucoup d'importance pour vous, mais ils en auront beaucoup pour eux.
Merci Thomas Villemontet, c'était important d'en parler. Pour retrouver plus d'informations sur votre association, rendez-vous sur le site internet milleetunmots.org. Merci à toutes et tous pour votre écoute ce matin et votre fidélité. Merci à Nicolas Baptiste et Catherine à la réalisation. On va se retrouver demain, ne vous inquiétez pas, entre 9h et 11h avec Anne Kerléo. Ce sera le décryptage de l'actualité de l'écologie du mois d'avril qu'on va vous proposer. Et puis, excusez-moi, je m'étouffe en direct. Je rappelle que vous pouvez nous rejoindre dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ». pour réagir et participer à l'émission en direct. Bonne journée à tous et à demain.